Bon, nous allons prier pour ouvrir la parole et continuer d'adorer le Seigneur en écoutant ce qu'il a à nous dire. Parce que une oreille attentive à la voix de Dieu, c'est une manière de lui dire notre adoration. Notre Père, nous voulons nous réjouir en toi et te célébrer parce que ta parole est puissante et vivante. Tu veux aujourd'hui, par elle, nous fortifier, nous encourager, nous édifier. Alors, notre Père, nous nous attendons à toi, que par ton esprit, tu accomplisses ton œuvre au milieu de nous. Remplis ma bouche, Seigneur, de ta parole et trace un chemin sans obstacle jusqu'au cœur de chacun de nous. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Comme lui. La semaine dernière, nous avons commencé ce thème « Comme lui ». Dieu veut que nous devenions des chrétiens matures. C'est vraiment le projet que Dieu a formé pour chacun de nous. Il veut nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour cela, dès la conversion, Dieu cherche à nous faire passer de l'état d'enfance à l'état de jeunes gens. Et de l'état de jeunes gens à l'état de père, comme nous l'avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire à l'état de chrétiens qui ont atteint la maturité spirituelle à laquelle le Seigneur nous invite, pour laquelle il nous a même créés. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, que vous voulez écouter la prédication, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Église et l'écouter pour être encouragé par rapport à ça. Une question vient tout de suite à l'esprit. Concrètement, c'est quoi un chrétien mature? Est-ce qu'on pourrait faire un portrait robot? Est-ce qu'on pourrait trouver les qualités qui vont dessiner une silhouette et nous dire « mais voilà le chrétien mature ». Si je veux être un chrétien mature, quelles sont les caractéristiques, les qualités que je dois manifester dans ma vie? Alors, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il y a tellement de qualités, très nombreuses. Ce que j'ai essayé, c'est de les regrouper en 10 caractéristiques que nous avons vues la semaine dernière, qui sont là. Et ma prière pour nous, c'est que cette année soit l'année de la maturité de chacun de nous, que nous puissions tendre vers la maturité chrétienne et que nous devenions ces chrétiens matures. Alors, je vous encourage à avoir ces caractéristiques dans votre Bible et à faire de cela une prière. Seigneur, voici le chrétien que je voudrais devenir. Je ne sais pas si vous avez reçu ces cartes. En tout cas, il y en a beaucoup sur le présentoir. N'hésitez pas à en avoir une avant de partir. Je récapitule avec vous ces caractéristiques. Le chrétien mature qui veut devenir comme le Christ, c'est un chrétien qui aime Dieu de tout son cœur. C'est un chrétien qui aime tous les autres. C'est un chrétien qui a des habitudes spirituelles. C'est un chrétien qui vit de la prière et de la parole de Dieu. C'est un chrétien qui sert Dieu par ses dons. C'est un chrétien qui est reconnaissant à Dieu. C'est un chrétien qui grandit par les épreuves. C'est un chrétien qui connaît la volonté de Dieu et la vie. C'est un chrétien qui marche dans l'Esprit de Dieu. Et c'est un chrétien qui témoigne de ce que Dieu fait dans sa vie et qui sait partager sa foi et même amener quelqu'un à la rencontre avec le Christ. Ce sont ces points que nous verrons au fur et à mesure. Il n'y a pas d'ordre, sauf pour les deux premiers. Parce qu'il y en a 10, on aurait pu mettre 20, 30, ça se dilue à l'infini, c'est pas bon. 10, c'est bien, c'est un chiffre parfait. Mais s'il ne fallait que deux, s'il ne fallait que deux, eh bien les deux, c'est les deux premiers, n'est-ce pas? Parce que ce sont les deux qui viennent directement de la parole de Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont ces paroles qui sont inscrites tout au début de cette carte. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le premier. Le chrétien mature, c'est le chrétien qui aime Dieu. Tous les chrétiens aiment Dieu, n'est-ce pas? J'espère. Le chrétien mature aime Dieu de tout son cœur. C'est là le plus important. C'est là où on met l'accent. Le chrétien mature est le chrétien qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Un chrétien mature se caractérise d'abord et avant tout par cette qualité. C'est un amour puissant, un amour profond, un amour authentique à l'égard de notre Dieu. C'est un amour exclusif. Et je lis avec vous ce que j'ai écrit pour que ça reste dans notre mémoire. Le chrétien mature aime Dieu et l'adore de tout son cœur. Il l'adore de toute sa force, de toute son âme. Il ne fera jamais rien qui porte atteinte à la gloire de Dieu ou à son honneur. Le chrétien mature est uni au Seigneur Jésus et il fait quotidiennement l'expérience de Dieu, de sa puissance, de sa présence. Jésus est pour le chrétien mature la perle de grand prix et il le considère comme son Seigneur. Et le chrétien mature organise toute sa vie pour gagner le Christ et devenir semblable à lui. Je répète, l'accent dans ces mots porte sur « de tout son cœur ». Parce que dès notre conversion, nous aimons le Seigneur. Mais nous allons apprendre à grandir dans cet amour, à faire l'expérience des différentes facettes de l'amour pour notre Dieu. Le Seigneur Jésus a répondu dans plusieurs passages à cette question, mais c'est quoi le plus grand des commandements? Lorsque nous regardons la Bible, nous voyons que le Christ et ses apôtres nous exhortent à de très nombreuses reprises à faire de l'amour pour Dieu notre priorité des priorités. L'amour de tout notre cœur. Alors nous allons lire plusieurs passages et nous commençons par le tout premier, justement dans lequel nous voyons cette réponse de Jésus à un expert en théologie, un pharisien, scribe, qui est allé voir Jésus pour lui poser une question piège. Il voulait faire tomber Jésus dans un piège et donc il lui pose cette question « Mais c'est quoi le plus grand amour ?» Alors nous allons lire Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements découlent la loi et les prophètes. À l'époque du Seigneur Jésus, quand il était sur terre, dans son corps d'humiliation, les Juifs avaient de très nombreux commandements. 613. 365 interdictions, 248 exhortations positives. 613, c'est beaucoup, hein, c'est même énorme. Et alors, dans cet amas innombrable de lois, certains se posaient la question, quel est ou quels sont les commandements les plus importants? Est-ce qu'on peut les trier? Est-ce qu'on peut les classer du plus important au plus léger? Les uns disaient oui, les autres, et parmi les autres, surtout les pharisiens, disaient absolument pas. Toutes les lois se valent et la transgression d'un seul commandement nous exclut de l'alliance de Dieu. Vous imaginez le fardeau qui était mis sur l'épaule des gens. Les gens sincères qui avaient le désir de plaire à Dieu devaient respecter 613 commandements. Ils en venaient chaque fois à en transgresser un ou deux par journée. Et le poids les écrasait. Et c'est dans ce contexte-là qu'un des pharisiens va voir Jésus pour le piéger, en lui disant, « Mais dans la loi, c'est quoi le plus grand des commandements ?» Et la réponse de Jésus, elle est vraiment importante parce qu'elle va mettre le point sur l'essentiel. En fait, elle va répondre à ce pharisien en lui disant, mais la question n'est pas quel est le plus grand des commandements. La question, c'est à quoi servent les commandements? Quel est le but essentiel des commandements que Dieu a donnés? C'est ça qui est original dans la réponse de Jésus, quand il répond que l'amour pour Dieu est le plus grand des commandements. En fait, il dit aux pharisiens, tous les commandements qui ont été donnés par Dieu n'ont qu'un seul but, c'est de nous conduire à exprimer notre amour pour le Seigneur. L'amour du Seigneur est au top niveau et à partir de là, il y a en cascade des commandements. Ce n'est pas le contraire. Et lorsque nous cherchons à aimer Dieu, nous sommes en train d'accomplir les commandements du Seigneur. Tous les commandements dans la Bible convergent vers un seul. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et à partir de là, il y a le deuxième commandement que le Christ a donné. Tu aimeras ton prochain. Quand Jésus dit « de là découle la loi et les prophètes », il veut dire que c'est le commandement numéro un. C'est vraiment le commandement essentiel. C'est ça qui a poussé Augustin, par exemple, ou Saint Augustin, pour certains, à dire cette parole fameuse « aime Dieu et fais ce que tu veux ». Mais oui, c'est logique si on y pense. Aimer Dieu de tout son cœur nous poussera forcément à agir pour l'honorer. Et donc notre conduite sera une belle conduite. Quand ce que nous faisons est inspiré par l'amour pour Dieu, alors nous pourrons faire ce que nous voulons parce que ce sera une belle chose. Donc Jésus n'est pas ici en train de simplifier la loi pour ne la réduire qu'à deux. Il est en train de dire quel est l'essentiel de la loi, quel est le but précis. Et le but précis des commandements, c'est d'aimer Dieu, de le servir et d'aimer les autres. Tous les commandements dans la parole ont un but unique, aimer le Seigneur, lui exprimer notre amour. Alors, comment est-ce qu'on doit exprimer cet amour? De quelle manière le chrétien mature exprime son amour pour Dieu? Je vous propose de nombreuses facettes de l'amour. Et c'est en les combinant ensemble que le chrétien manifeste qu'il est vraiment un chrétien mature. Lorsque nous associons les différentes facettes de notre amour pour Dieu les unes aux autres, notre amour va grandir en qualité, en capacité et en maturité. Et par là même, nous manifesterons que nous sommes des chrétiens matures. Plus notre amour s'enrichit de ces facettes en les associant les unes aux autres, plus nous deviendrons des chrétiens matures. La toute première facette que je vous propose, c'est celle de l'amour déclaration. L'amour déclaration. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime un autre et qui ne lui a jamais dit? Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme de l'amour? Aimer commence par une déclaration. C'est simple, n'est-ce pas? Notre manière d'aimer Dieu, c'est d'abord de le dire. Pas seulement de le dire, c'est de le lui dire. Parce qu'il y en a qui aiment et en cachette. Enfin, ils le disent à tout le monde, sauf à la personne concernée. Non, c'est bien de le dire à tout le monde, mais c'est encore mieux de le dire à la personne concernée. Et quand j'aime Dieu, je le lui dis. Lorsque nous lisons les psaumes, c'est ça qui nous étonne. David commence au psaume 18. « Je t'aime, Éternel !»« Je t'aime, Éternel !» Voilà, on peut l'afficher le texte. « Ma force !»« Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher !» On a l'impression qu'il accumule des tas de choses parce qu'il est, comment dire, pris par l'émotion. C'est une lettre d'amour que le psaume 18. Celui qui aime parle à Dieu et il lui dit « Seigneur, je t'aime ». On le dit en privé et on le dit en public. Dans la présence, face à face avec Dieu, mais dans la communauté chrétienne ensemble. La louange, l'adoration, le dimanche matin, a pour but d'exprimer notre amour à Dieu. Car louer Dieu, c'est l'aimer. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Éternel. Tu es mon rocher, tu es ma force, tu es mon libérateur, où je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Le psaume continue comme ça très longtemps. Le psaume 116. J'aime l'Éternel car il m'a fait du bien. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Le chrétien mature déclare son amour à Dieu. Je me rappelle deux jeunes qui étaient amoureux. Quand ils rencontraient quelqu'un, il ne fallait pas une minute avant qu'ils disent « Oh, je l'aime !» Pas une minute qu'on savait de toute façon qu'ils étaient amoureux. À la fin, ça devenait une prise de tête. Mais parce que ça bouillait à l'intérieur. Et quand l'amour de Dieu nous étreint, quand nous aimons Dieu, ça nous dévore de l'intérieur et on ne peut pas réprimer ça. On a envie de partager ça, on a envie de le proclamer parce que nous sommes fiers d'aimer Dieu, parce que nous sommes heureux d'aimer Dieu, parce que l'amour que nous avons pour Dieu est un amour qui nous prend aux tripes, comme l'amour de Dieu pour nous nous a pris d'abord aux tripes. L'amour déclaration, c'est l'un des cinq langages de l'amour. Vous avez entendu parler de ça? Il y a un livre célèbre, Les cinq langages de l'amour, écrit par Chapman. Et le premier langage, c'est celui de l'amour valorisation ou déclaration. Quand le dimanche matin, nous sommes là pour nous dire, Seigneur, que tu es beau, que tu es grand, que tu es infini. C'est une déclaration d'amour par la valorisation de notre Dieu. On lui rend gloire et c'est ainsi que nous exprimons notre amour. Donc, la première facette de l'amour, c'est l'amour déclaration. La deuxième facette, c'est l'amour réponse à l'amour de Dieu en premier. Vous voyez, l'une des choses les plus belles dans l'Évangile, c'est que nous aimons Dieu parce que quoi ? Il nous a aimés le premier. Vous ne trouverez pas dans une autre religion cette vérité. Toutes les autres religions vous disent « Aime Dieu pour que Dieu t'aime en retour ». Le Christ est venu pour nous dire « Dieu vous aime de toute éternité ». Dieu vous aime parce que vous êtes ses créatures. Dieu nous a aimés le tout premier. Nous avons tout à l'heure chanté « Torrent d'amour et de grâce ». Quand ces torrents d'amour se déversent dans notre cœur, quand l'Esprit de Dieu répand son amour dans notre cœur, il ne peut pas y avoir le silence en réponse, mais l'expression de notre amour en retour à son égard. Nous pouvons lire dans 1 Jean, chapitre 4, « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. » Et le verset 10, très important. « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons, nous, aimé Dieu, mais dans le fait que lui, il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Mais vous voyez, lorsque je découvre que Dieu m'aime d'un amour authentique et sincère alors que je méritais sa colère, je l'aime. Lorsque je découvre que Dieu, qui n'aurait jamais dû même me regarder, me contemple avec tendresse, alors je l'aime. Lorsque je découvre que le Dieu saint, qui aurait dû rester caché, éloigné de toute éternité, s'est rapproché à moi et est devenu tout près de moi, alors je l'aime. Lorsque je découvre que le Dieu qui aurait dû me condamner est venu pour me pardonner et me libérer, alors je l'aime. Notre Dieu, c'est celui-là. C'est celui qui a fait la chose la plus incroyable. Cette semaine, j'ai entendu un ancien ministre, Michel Sapin, à qui on posait la question par rapport à Carlos Ghosn. Et on lui disait, Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler à cet homme ? Et Michel Sapin a dit, vous savez, pour lui, je n'étais qu'un petit ministre. Il ne voulait absolument pas nous parler. Il voulait parler seulement aux grands. Et quand il venait à la présidence, il ne s'adressait pas aux petits ministres. Hein. Il ne cherchait à parler qu'au président de la République. Le seul qui devrait avoir ce comportement, c'est Dieu. Mais il fait le contraire. Dieu, il vient, il ne cherche pas à parler au président, il ne cherche pas à parler aux ministres. Il les aime, mais il cherche ceux qui étaient les plus bas, dans les bas-fonds. Et ceux-là aussi, il les a aimés. Dieu t'aime, et quand tu découvres que Dieu t'aime, qu'il t'a pardonné tes péchés, qu'il veut nouer une relation intime avec toi, qu'il veut faire déverser encore plus son amour dans ton cœur, alors tu débordes d'amour à nouveau et en retour à l'égard de ce Seigneur incroyable. La troisième facette de l'amour, c'est l'amour-obéissance. Il y a l'amour-déclaration, l'amour-réponse à l'amour de Dieu et l'amour-obéissance. Notre manière en tant que chrétien de déclarer notre amour à Dieu, c'est de lui obéir. On ne peut pas y échapper. Comme je viens de le dire concernant la réponse de Jésus aux pharisiens, il lui dit « Tous les commandements de Dieu convergent vers un ou deux, qui est en réalité l'expression de notre amour pour Dieu. » Quand nous pratiquons les commandements de Dieu, nous disons notre amour au Seigneur. Là encore, le Christ nous a laissé de très nombreuses exhortations à aimer Dieu en pratiquant ses commandements. Celui qui dit qu'il aime Dieu sans pratiquer ses commandements est un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean. Lisons 1 Jean 14, 21 à 24. C'est une parole du Christ. Là, il est à la fin. Et il parle avec ses disciples dans une pièce, on appelle ça souvent la chambre haute. Et voilà ce qu'il leur dit. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude a distingué de Judas Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Est-ce qu'il faut un commentaire pour ce passage ? Je pense que c'est très clair, c'est limpide. Celui qui m'aime, il fait quoi ? Il garde mes commandements. Et Jean, toujours l'apôtre Jean, dans la première épître qu'il a écrite, chapitre 5, verset 3, il dit « En effet, l'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. » Autrement dit, amour pour Dieu égale garder les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ce ne sont pas un fardeau. Il n'y a pas d'amour sans obéissance aux commandements de notre Dieu. Mais là encore, je voudrais quand même aller plus loin et préciser. Parce que nous obéissons, et il y a plusieurs manières d'obéir. Est-ce que vous vous rappelez la parabole que Jésus a racontée ? Cette parabole dans laquelle il nous disait « Un homme avait deux fils. » Il a dit au premier « Va travailler dans mon champ. » Il a répondu quoi ? « Non, je ne veux pas. » Il a dit au deuxième « Va travailler dans mon champ. » Il a dit « Ah oui, je veux bien. » Le premier a changé d'avis. Il avait dit, non, je ne veux pas. Et puis il s'est repenti, il a dit, bon, d'accord, j'y vais. Et il l'a fait. Le deuxième qui avait dit, ah ben, je veux bien, il n'est jamais allé travailler dans le champ de son père. Et vous voyez, à travers cette parabole, on voit qu'il y a deux façons, deux manières de répondre et d'obéir. Il y a l'obéissance que j'appelle la parlotte. C'est du blabla. C'est « je fais, mais en réalité, je ne fais pas ». C'est « ah, mais Seigneur, je suis prêt à te suivre jusqu'au bout. Seigneur, je suis prêt à obéir. Seigneur, je suis prêt à faire. » Et malheureusement, on ne fait pas. Et ça, c'est la première réaction qui ne sert à rien véritablement. Il y a l'obéissance par devoir. Mais c'est déjà bien. Obéir par devoir, c'est mieux que de ne pas obéir. Je n'ai pas envie d'obéir, mais je le fais parce que Dieu me le demande. Je n'ai pas envie d'obéir, mais je le fais parce que je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Là, si je le fais, je suis en chemin vers la maturité, mais je ne suis pas devenu un chrétien mature. Alors, si je n'ai que de la parlotte, là, je suis vraiment dans l'immaturité. Hein. Si j'obéis par devoir, c'est déjà bien, mais ce que Dieu attend de moi, c'est que j'obéisse par amour. Quand je pratique les commandements de Dieu, et je le fais parce que j'aime Dieu, c'est ce qui plaît le plus au Seigneur. Et vous voyez, quand je fais ça, je comprends une chose qui est très importante. C'est que les commandements de Dieu ne sont pas une liste de choses ou d'interdits qui n'ont aucun sens. C'est ce que les pharisiens, malheureusement, avaient compris. 613 commandements qui s'accumulaient les uns aux autres, mais ils n'avaient aucun rapport les uns avec les autres. Et donc, c'est devenu un fardeau à porter parce qu'ils obéissaient à la règle pour la règle et non pas pour autre chose. Et ce que Jésus dit, c'est que l'obéissance doit être faite dans un but particulier. Elle est faite comme expression de mon amour pour Dieu. Et quand j'aime véritablement Dieu, je vais lui obéir et je vais lui obéir de bon cœur. Et les commandements qu'il m'a donnés, je vais comprendre que ce sont des commandements qui sont faits dans mon intérêt, pas contre moi, mais pour mon bien véritablement. Et ça, ça va m'encourager à aller de l'avant. Après l'amour qui est un amour obéissance, j'arrive à la quatrième facette, c'est l'amour qui est un don de soi. L'amour don de soi. Le plus beau dans l'amour, ce qui nous épate le plus dans l'amour, c'est qu'il fait abstraction de soi pour prendre en considération l'autre. Et si le chrétien expérimente l'amour qui est don de soi, il est vraiment dans l'imitation du Christ. Il est vraiment en train de devenir semblable au Christ. Et donc, il est en train de devenir mature de la maturité du Christ. Parce que celui qui a aimé en se donnant, ben c'est le Christ. Le Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous en rançon pour nos péchés. C'est par amour qui se trouve en lui et non pas en nous. Ce n'est pas en nous regardant nous, c'est en regardant son cœur qu'il a agi de cette façon. Et il s'est donné de la manière la plus incroyable. Il a accepté les souffrances les plus extrêmes pour que nous ne recevions le pardon et la communion avec lui. Et l'amour don, c'est l'amour qui ressemble vraiment à celui de Jésus. Donc le chrétien qui vit l'amour comme un don de soi à Dieu, il est sur le chemin et même vers, et même il a atteint la maturité. L'amour don de soi. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire. offrez vos corps comme un sacrifice vivant. S'offrir à Dieu. S'offrir à lui, corps, âme et esprit. Et quand nous le faisons, alors nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Un bel exemple de l'amour don de soi, c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. À travers un geste qu'elle a accompli, vous vous rappelez, cette femme aimait Jésus d'un amour profond, d'un amour authentique. Et son amour va se transformer en amour adoration, puisqu'elle va venir vers lui pour lui offrir. En fait, elle aurait voulu s'offrir elle-même, et elle l'a fait, puisqu'elle s'est assise aux pieds de Jésus. Mais pour lui exprimer son amour le plus profond, elle a pris le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai dans ma maison qui est le plus cher? Et elle a cherché quoi? Le parfum le plus précieux qu'elle avait. Ce parfum valait le salaire d'une année d'une personne. Vous vous rendez compte? Un parfum qui coûtait mais vraiment une fortune. Et ce parfum, elle va le répandre tout entier sur la tête et les pieds de Jésus. Et quand les gens voient ça, ils disent « Mais c'est extravagant, c'est fou !» Et en effet, l'amour véritable qui est don de soi, c'est un amour qui ne peut pas être compris par les autres. Quand nous aimons Dieu, peut-être que les autres pourraient nous considérer comme des fous. Il y a des gens qui, tout d'un coup, décident de tout abandonner parce qu'ils veulent servir Dieu. Ils ont une très belle situation. Ils disent « Moi, je laisse tout tomber. » Parce que par amour pour Dieu, je veux m'engager dans tel ou tel service. Ça arrive. Qu'est-ce qui arriverait si votre enfant venait vous dire « Papa, maman, j'arrête mes études parce que je veux m'engager au service de Dieu. » Est-ce que vous allez lui dire « T'es fou ?» Ou est-ce que vous allez lui dire « Bah écoute, on te soutient. Si c'est vraiment l'appel de Dieu pour toi, si tu veux servir Dieu de cette façon-là, on t'encourage à le faire. » Qu'est-ce que vous répondriez si votre enfant venait en vous disant « Voilà, j'ai une belle situation, mais je veux m'engager autrement pour Dieu. Je ne veux pas m'accrocher à ma situation, je veux plutôt m'engager à servir le Seigneur. » Être prêt au sacrifice suprême, être prêt à tout abandonner, être prêt à renoncer à tout par amour pour Dieu. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Le plus important, c'est la répétition de tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas un petit espace pour autre chose. De tout mon cœur, ça ne veut pas dire de mon cœur. De toute mon âme, ça ne veut pas dire de mon âme. Ça veut dire que tout mon être se livre totalement à Dieu et il n'y a aucun espace, aucune place pour autre chose. Attention! Bien sûr que Dieu nous appelle à aimer les autres, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, l'amour de Dieu se manifeste par l'amour des autres, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est un cœur partagé, un cœur qui regarde à droite et à gauche, un cœur qui aime Dieu, mais qui aime aussi autre chose. Et de temps en temps, il est attiré beaucoup plus par autre chose que par Dieu. L'amour partagé, c'est ce que le peuple d'Israël a constamment vécu. Quand ils avaient des idoles, est-ce que vous pensez qu'ils n'aimaient pas Dieu? Bien sûr qu'ils aimaient Dieu. Ils allaient lui sacrifier le matin, à lui, et l'après-midi, aux idoles. Ils étaient partagés. Il y avait de l'amour de Dieu pour Dieu dans leur cœur, mais il y avait un autre amour aussi. Il y avait des idoles dans leur cœur. L'amour don de soi, c'est un amour totalement réservé à Dieu. C'est un cœur qui appartient entièrement au Seigneur. Il n'y a pas de place pour autre chose. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, ça veut dire que tes choix, tes décisions, parce que le cœur dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est le siège de notre volonté, c'est le siège de nos décisions. Quand Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur », ça veut dire que tu l'aimeras en faisant les choix qui l'honorent, en faisant les choix qui le glorifient. Tu l'aimeras en prenant des décisions qui prennent en compte toujours Dieu en premier. C'est Dieu qui est premier et rien d'autre. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Et aimer Dieu de toute son âme, ben, il y a la place pour les émotions. Parce que notre Dieu, n'est pas une statue froide, c'est le Dieu vivant et vrai avec qui nous avons des relations. Et ces relations s'expriment aussi à travers des émotions. Quand j'aime Dieu, eh bien, il m'arrive de sentir son amour tellement fort que des larmes jaillissent de mon cœur. Quand j'aime Dieu, j'éprouve des émotions. Il y a mes entrailles qui se remuent à l'intérieur de moi. Et je fais cette expérience-là. Quand l'amour de Dieu bouleverse mes entrailles, je suis vraiment vers un amour qui exprime ma maturité en tant que croyant. La pensée, c'est mon intelligence. Toute mon intelligence est orientée vers l'amour de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le mot important, tout. Ça ne laisse de place à rien d'autre. Et quand j'aime vraiment Dieu de tout mon cœur, je suis un chrétien mature. Encore une facette de l'amour multidimensionnel que Dieu nous appelle à exprimer pour lui, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que Dieu nous aime sans condition, mais nous, nous l'aimons en retour sans condition. J'aime Dieu pour ce qu'il me donne. Ça, c'est un amour presque conditionnel. C'est bien déjà. Mais le mieux encore, c'est d'aimer Dieu pour ce qu'il est. J'aime Dieu indépendamment des circonstances de ma vie. Que je perde mon travail, ou que je tombe malade, ou qu'il m'arrive des galères dans la vie, mon amour pour Dieu ne varie pas en fonction des circonstances de ma vie. Si tel est le cas, mon amour n'est pas parfait, mon amour n'est pas complet, je ne suis pas un chrétien mature dans ce domaine-là en tout cas. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu, mais qui attendent que Dieu leur donne en retour. Et quand ils ne reçoivent pas ce que Dieu, ce qu'ils ont demandé à Dieu, ils sont troublés dans leur cœur, ils sont perdus. Et ils commencent à s'interroger. « Dieu, est-ce que tu m'aimes ?» Et pire encore, « pourquoi est-ce que moi je t'aimerais Dieu ? C'est toi, tu ne me donnes pas ce que je demande. Je suis venu à toi et j'ai demandé ceci, cela et je ne l'ai pas reçu. J'ai attendu 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, je te dis au revoir. » Oui, ça arrive. On abandonne Dieu parce qu'on a estimé qu'il n'a pas répondu à notre amour. C'est le monde à l'envers, vous voyez ? Ce n'est plus mon amour qui est la réponse à l'amour de Dieu. Non, c'est l'amour de Dieu qui doit être la réponse à mon amour. Je t'aime, donc tu dois m'aimer et me donner ce que je te demande. Si nous sommes dans cette considération de l'amour, nous sommes loin de la maturité. Mais mon amour en tant que chrétien doit être un amour totalement indépendant de tout. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qu'il y a, peu importe comment le monde tourne, je sais que j'aime Dieu. Rien ne pourra arracher ça de ma vie. Rien ne pourra enlever ça de ma vie. J'aime Dieu d'un amour véritable et je l'aime non pas parce que je veux recevoir quelque chose de lui, mais parce que j'ai déjà reçu le plus beau de lui. J'ai reçu Dieu lui-même. Quand je sais que Dieu habite ma vie, que Dieu me remplit de sa présence, de sa grâce, quand je fais l'expérience de la présence de Dieu quotidiennement dans ma vie, alors je peux vraiment dire que je l'aime. L'amour fondé sur ce que Dieu me donne dit ceci. Comme Dieu est bon de me donner cela. L'amour mature, lui, il va dire, quand Dieu nous donne quelque chose, mais Dieu est formidable, il est généreux, il est grand, il est infini. Nous sommes épatés par le donateur et non pas par la donation ou le don qui nous vient de la part de Dieu. Voilà, je récapitule. Ces 5 facettes de l'amour auquel Dieu nous invite et il veut que nous les expérimentions toutes ensemble. Quand nous les expérimentons ensemble, nous sommes vraiment des chrétiens matures dans l'amour parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Les 5 facettes, C'est l'amour déclaration. Je dis à Dieu que je l'aime tous les jours. C'est l'amour réponse. J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier et ça, ça brûle en moi. J'aime Dieu et je lui obéis. Et mon obéissance est l'expression de mon amour. J'aime Dieu et je me donne tout entier à lui. Il n'y a rien en moi qui m'appartient, tout appartient à Dieu. Je suis prêt au sacrifice suprême. Et puis, ou enfin plutôt, mon amour est un amour inconditionnel, à l'exemple de l'amour du Christ. Christ m'aime inconditionnellement et j'en arrive à aimer Dieu inconditionnellement. Alors, il vous reste maintenant, il nous reste tous, à examiner quelles sont les facettes qui correspondent à notre amour pour Dieu. Et quelles sont les autres facettes que nous avons besoin d'ajouter à notre amour pour le Seigneur? Parce que nous aimons tous le Seigneur. Si nous sommes croyants, nous l'aimons. Mais quelles sont les facettes que nous vivons déjà et celles que nous avons besoin de perfectionner ou celles qui nous manquent? Ça, c'est l'examen que nous sommes invités à faire. Et si cette année doit être une année de la maturité, c'est une année de la maturité dans l'amour pour Dieu. Si je suis au point A, peut-être que 1, je devrais certainement ajouter le point 2. Et si je suis au point 2, je dois ajouter le point 3 et ainsi de suite. Et quand je suis dans l'accomplissement des 5 points, alors je suis dans l'amour de Dieu.